les ministères dans l'Église. Alors, tel sera le sujet qui va nous occuper pendant les réunions qu'il me sera donné de faire. Vous savez, avant ce soir, je voudrais faire une introduction au sujet. Une introduction, c'est toujours nécessaire qu'il y ait au devant du sujet dans lequel on va pénétrer, qu'il y ait une introduction. Mais avant l'introduction, je voudrais aussi dire quelque chose de préalable, un préalable avant l'introduction. Actuellement, il faut bien que nous soyons conscients de ce que, dans les églises, d'une manière générale, on ne recherche pas suffisamment l'enseignement profond de la parole de Dieu. Or, il y a dans les Écritures, qui sont la parole de Dieu, puisqu'elles sont vivifiées par le Saint-Esprit, pour nous qui croyons, le Saint-Esprit a inspiré les auteurs, les rédacteurs de la Bible, et c'est lui aussi qui fait ressortir du texte des Écritures toutes les valeurs spirituelles, toutes les richesses qui y sont contenues. Il y a d'énormes richesses dans les Écritures. Et je déplore actuellement, à notre temps, parce que je peux faire la comparaison, moi, avec un autre temps, qui est un peu plus ancien, mais je déplore que l'on ne s'attache pas suffisamment à connaître vraiment le fond du message de Dieu dans les Écritures. Il faut absolument connaître les Écritures et connaître Dieu. Ce sont les deux choses pour lesquelles Paul priait incessamment, la connaissance de la volonté de Dieu, donc la connaissance du message qu'il nous a transmis par les Écritures, et puis la connaissance de Dieu lui-même, de la personne de Dieu en celle de Jésus-Christ. Alors, il faut absolument que nous soyons désireux de pénétrer les Écritures, pénétrer profondément. Le Seigneur Jésus a ouvert l'esprit des deux disciples qui se rendaient à Emmaüs. Je pense qu'il va aussi ouvrir notre esprit, le mien d'abord, bien nécessaire, et puis le vôtre aussi, ouvrir notre esprit. Donc, il faut que l'esprit soit ouvert. Attention, la connaissance de Dieu se reçoit par l'esprit. Se reçoit par l'esprit. Vous savez que nous sommes une trinité, esprit, âme et corps, et c'est par l'esprit que nous pouvons recevoir vraiment la connaissance du conseil de Dieu et des desseins de Dieu. Ceci étant dit, nous allons alors aborder notre introduction au sujet qui, je le redis, est celui des ministères dans l'Église. Tout d'abord, je pense qu'il faut rappeler quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que Jésus est la tête de l'Église qui est son corps. Jésus est la tête de l'Église qui est son corps. Prenons les deux déclarations que nous avons à ce sujet dans notre Bible. C'est d'abord dans les Éphésiens, chapitre 1 et verset 22. Éphésiens 1, verset 22, « Il a tout mis sous ses pieds, Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit toutes en tous. » Et puis nous avons une deuxième déclaration qui est identique, Colossiens 1, verset 18, Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est la tête du corps de l'Église. Quand nous lisons dans les Éphésiens que le Seigneur Jésus est le chef suprême, selon la volonté de Dieu, le chef suprême de l'Église, cela ne veut pas dire qu'il est chef pour dans le sens courant du terme, c'est-à-dire un chef qui donne des ordres et qui examine tout ce qu'il passe et qui dirige, en somme, par des ordres précis les opérations qui ont lieu dans l'Église, la marche même de l'Église. Ça n'est pas cela du tout. Il est chef dans le sens de tête. On dit quelquefois de la tête qu'elle est le chef, n'est-ce pas ? On dit quelquefois mettre un chapeau sur son chef, sur sa tête. C'est dans ce sens. Mais le Seigneur Jésus n'a pas du tout dans ce ministère merveilleux, extraordinaire qu'il remplit maintenant et auquel nous reviendrons, il n'a pas du tout désir de se mettre à notre place et de nous priver d'exercer notre responsabilité, pas du tout. Il est chef dans le sens, oui, de tête. Et nous pouvons même préciser la chose en disant que le Seigneur Jésus fut la première cellule de ce corps qu'est l'Église. La première cellule de ce corps qu'est l'Église. Et maintenant, il en est le centre vital, le centre générateur et nourricier. Il nourrit l'Église, précise aussi l'Épître aux Éphésiens. Le centre générateur et nourricier par le rayonnement de son esprit. Et l'action qu'il exerce ainsi peut être comparée à celle de l'influx nerveux partant du cerveau vers toutes les parties d'un organisme. Vous savez que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, vous avez cela présent à l'esprit, établit une comparaison entre l'Église, corps de Christ, et un organisme humain. Mais cette comparaison que nous faisons ici est tout à fait justifiée. Elle est justifiée par le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4 et verset 16. Nous avons là un passage sur lequel nous aurons des occasions de revenir. Alors, je prends le chapitre 4 et le verset 16. « C'est de lui, c'est-à-dire de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie, c'est-à-dire se construit lui-même dans l'amour. » Nous voyons bien là, n'est-ce pas, un rôle qui est tout à fait comparable à l'influx nerveux qui part du cerveau vers toutes les parties du corps. Christ est donc la source intarissable de la vie de l'Église. Il est le cep dont les sarments se nourrissent. Cet enseignement de Jean chapitre 15 est tellement clair qu'il n'est pas tellement besoin de s'y arrêter. Le cep dont les sarments se nourrissent et dont ils obtiennent leur croissance. Et nous pouvons dire qu'il est vrai que le Christ remplit tout en tous, comme nous l'avons lu dans Éphésiens 1, 23, le Christ remplit tout en tous. Et je préfère un autre terme qui a été adopté par d'autres traducteurs que second, qui est celui-ci, Christ accomplit tout en tous. Accomplit tout en tous. Je préfère, moi, au verbe remplir. Parce que remplir, c'est moins éloquent concernant justement l'œuvre de Jésus-Christ dans l'Église. Donc, il est celui qui accomplit tout en tous. Il est tout et en tous. Cette proclamation fondamentale éclaire l'essence et la nature d'ensemble des ministères. Je ne pouvais pas traiter des ministères sans rappeler cela, sans mettre cela d'abord en avant. Les ministères ne pourront donc être que des fonctions assurant la vie et l'activité du corps, qu'est l'Église, de par l'action des liens d'assistance avec la tête, venant de la tête, cela dans l'harmonie d'une coordination de tout l'ensemble, nous dit l'apôtre Paul, une coordination de tout l'ensemble. Je vous assure que véritablement, on est devant une description de caractère biologique. Si nous voulons recevoir la parole de Dieu comme il convient, c'est-à-dire nous apportant la vérité immuable, la vérité est précisément toujours immuable, eh bien si nous voulons cette vérité immuable et recevoir la parole de Dieu comme il le faut, alors chassons de notre cœur toute conception de l'Église qui est étrangère à cette notion de corps. Et retenons la notion de fonction vitale dépendant de processus supérieurs et purement spirituels. Oui, des fonctions vitales et ministères vont exercer des fonctions vitales qui dépendent de processus supérieurs et qui sont d'ordre spirituel. L'Église est donc un corps vivant, organisé, bien coordonné en toutes ses parties et qui doit grandir, s'accroître, se développer à tous égards, non pas seulement en nombre, mais également en force, en maturité. L'Église ne peut donc pas valablement être vue comme un groupement d'hommes et de femmes s'assemblant selon les habitudes acceptées pour entendre une liturgie ou le maniement de quelques idées présentées avec éloquence. Ça n'est pas du tout l'Église. Ne regardons plus l'Église comme un milieu utile à satisfaire le besoin religieux de ceux qui la composent, un milieu rituel où règne le vague et l'à peu près, dans un climat de moralisation et de sentimentalisme. Ce n'est pas l'Église. L'Église que l'on regarde, et l'on regarde avec le même œil, l'Écriture, la parole de Dieu, et on y voit du sentimentalisme, de l'à peu près, du vague, ça n'est pas du tout l'Église. Est-ce que notre corps, lui, peut se satisfaire de fonctions qui seraient en somme gouverné dans le vague, dans l'imprécision? Je vous assure que ce corps, il ne vivrait pas longtemps. Eh bien, il en est ainsi de l'Église. Il ne faut absolument pas conserver cette idée d'approximation, de vague, de sentimentalisme. Non, il y a des lois précises, il y a des actions précises. Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Et ce sont des actions précises, des actions qui relèvent de la vérité, qui relèvent de la justice absolument inflexible et de l'amour qui est parfait. Par conséquent, chassons les mauvaises notions que nous aurions pu conserver de l'Église, c'est nécessaire, c'est un déblayage, ça. Le Seigneur a dit à Jérémie, eh bien, tu vas commencer par démolir tout ça, détruire, puis reconstruire. Je pense que chaque fois que nous reprenons un des grands thèmes de l'Écriture, une des grandes questions, c'est ce qu'il faut faire. La religion, pensent certaines personnes, est affaire de
sentiment,
et puis, ajoute-t-elle, tout est bien si l'on est sincère. Ah, tout cela, évidemment, c'est absolument faux et néfaste. Il faut que l'Église apparaisse en sa réalité positive. Positive. Dieu est positif. Il n'y a pas d'à peu près en Dieu, ni dans la volonté de Dieu, ni dans les choses que Dieu fait. L'œuvre de Dieu est positive et objective. Quand il s'est trouvé un de nos savants pour mobiliser à lui et aux thèses qu'il soutenait l'expression, l'objectivité de la connaissance, j'ai été très contrarié de cela, très contrarié, parce que c'était pas à lui, d'autant plus que il est le livre qui l'a un peu rendu célèbre est un chef-d'œuvre d'athéisme. Mais l'objectivité de la connaissance, c'est du côté de Dieu, de la parole de Dieu, qu'on peut la reconnaître, et non pas du côté de la science. Car en bien des domaines, chers amis, la science est toujours amenée à réviser ce qu'elle a affirmé hier. La meilleure représentation que nous pouvons avoir de l'Église nous vient de la réflexion sur un organisme vivant tel que celui de l'homme. Les fonctions et les processus qui maintiennent la vie de cet organisme suivent des déroulements précis et minutieux, et tout dérèglement nuit à l'état de santé, compromet l'ensemble, cause la maladie et peut conduire à la mort. Le corps humain, comme celui des animaux, a pour devenir, dès la naissance, un développement et une croissance. Et cela ne peut se faire que par la mise en jeu d'éléments qui sont en place et qui agissent selon des lois précises. Chez l'enfant Jésus, au cours de sa croissance, l'on ne voyait que l'expression de la grâce de Dieu. Rien de divergent en lui, rien qui se fût écarté de l'image de Dieu. Nous pouvons relire ce que nous dit l'évangile de Luc concernant l'enfance de Jésus, chapitre 1 et verset 80. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. L'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Ça, c'est Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Bon, c'est déjà quelque chose. Et puis, concernant le Seigneur Jésus, nous avons Luc 2, verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Ne pensons pas que cela est exceptionnel parce que Jésus a pu vivre cette vie d'homme sans aucunement être atteint par le mal, par le péché, sans que Satan ait la moindre part en lui. Alors nous disons, c'est exceptionnel, nous avons tort. Bien sûr, c'est exceptionnel. On n'en connaît pas deux hommes et qui un autre homme qui ait pu faire cela. Mais attention, maintenant nous sommes l'Église. Et ce que nous voyons là de l'enfant Jésus, eh bien, nous devons penser que son corps actuel, le corps qu'est l'Église, lui aussi doit croître et se fortifier, rempli de sagesse et de la grâce de Dieu, et que la grâce de Dieu soit sur lui. Dans le verset 52, toujours chapitre 2, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Si on disait ça de l'Église, comme ce serait magnifique, n'est-ce pas? Et pourquoi ne pas le vouloir? Le Seigneur Jésus nous a bien dit, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Alors, si nous disons c'est impossible, c'est absolument impossible, alors si nous disons c'est impossible, eh bien, nous annulons la foi sur cette proposition du Seigneur. Et il ne faut jamais annuler la foi. Si le Seigneur nous a dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », c'est vers quoi nous devons tendre. C'est notre étoile, si vous voulez, qui va nous faire marcher dans la bonne direction et selon l'ascendance nécessaire. Donc le Seigneur Jésus nous fournit là, dans sa propre croissance, un exemple à considérer. Il n'eut rien dont il eût dû se défaire ou qu'il eût dû désapprendre. Tout allait avec sûreté dans le bon sens, comme nous voudrions que ce soit cela, l'Église. Il croissait selon un parfait modèle, selon les perfections de la vie. Or, aujourd'hui, l'Église et son corps, lui aussi, en voie de croissance dans le champ de l'amour divin. Dieu n'a-t-il pas inscrit dans ses desseins de faire paraître devant lui son Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Cela vient de Éphésiens 5, 27. Comment pourrait-on ne pas tenir compte de ces arrêts de la souveraine volonté divine concernant l'Église? Mais, dira-t-on, notre frère disait tout à l'heure qu'il pouvait y avoir peut-être certains légers désaccords, mais il peut surtout y avoir des questions. Alors, il me semble entendre une question. Mais le péché, voilà, le péché. Ah, le péché. Jean nous dit bien dans sa première épître que celui qui dit qu'il est sans péché est un menteur. Bon, par conséquent, nous sommes obligés d'admettre cette triste réalité, malgré tout, du péché dans l'Église. Nous savons comment il faut y remédier. Nous avons un intercesseur, un paraclétos, parce que Jésus reçoit le titre de paraclétos dans l'intercession qu'il fait auprès du Père en notre faveur, à condition que nous confessions le péché, notre péché. Mais nous n'allons pas l'oublier, ce péché. N'oublions pas que nous profanons l'Église de bien des manières, malheureusement. Et nous apportons à son visage, au visage qu'elle devrait avoir, des lacérations, des taches que le monde ne manque pas de voir. N'oublions pas non plus que le Seigneur de l'Église la sanctifie par sa parole afin qu'elle soit sainte. Il y a l'action aussi du Seigneur sur l'Église. Et il faut compter sur cette action. L'image de l'Église à travers les siècles n'est-elle pas donnée par la communauté de Corinthe? Et si vous avez bien lu et relu les lettres de Paul aux Corinthiens, vous aurez certainement marqué certains étonnements. Parmi les Corinthiens, en effet, Paul découvre des hommes charnels. ou divisé, ou profanateur de la Sainte Cène, ou encore plaidant l'un contre l'autre devant le monde, ou même tombant dans l'impudicité, ou courant le risque de l'idolâtrie, ou enfin niant même la résurrection des morts. Peut-on trouver une chose plus grave que celle-là? Cependant, l'apôtre voit aussi que le témoignage de Christ est solidement établi parmi ces mêmes chrétiens, et qu'en Jésus-Christ, ils ont été comblés de toutes les richesses concernant la parole et la connaissance. Dans les épîtres que l'apôtre adresse à la communauté de Corinthe, nous trouvons déjà le langage et les actes des ministères. Et nous y voyons la grande nécessité du ministère institué par le Seigneur. Il importe d'enseigner, de mettre le doigt sur toute déviation, d'exhorter, de redresser ce qui a pu se déformer, de dénoncer le péché, de donner l'exemple d'une marche assurée, et pour tout cela, nous avons bien des passages que je ne vais pas consulter maintenant, mais vous les avez certainement à l'esprit. Donc, vous voyez, n'est-ce pas, ce que j'avais l'intention de faire apparaître, c'était la nécessité des ministères. Compte tenu de ce passage fondamental et tellement merveilleux, il est si merveilleux que on aurait bien souvent souhaité que l'apôtre Paul y consacre plusieurs pages. De Éphésiens 4:16, n'est-ce pas, j'ai lu tout à l'heure Éphésiens 4:16. C'est de lui, de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et se construit lui-même dans l'amour. Comment pourrait-on admettre que le Seigneur ait livré son Église au seul entendement humain? S'il n'y avait pas de ministère, ce serait alors l'entendement humain, aux seules capacités naturelles, aux seules ressources de l'intuition, de la logique ou de l'imagination humaine. Comment pourrait-on penser que Dieu ait livré son Église, et nous venons de dire ce qu'est l'Église? Comment aurait-il pu livrer cette Église aux ressources naturelles de l'homme? Alors que la première épître aux Corinthiens nous dit une chose magnifique, fondamentale elle aussi, que je ne vous lirai qu'en partie, au chapitre 2 de 1 Corinthiens, chapitre 2, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Les ministères de certains fidèles, car les ministères sont distribués à certains, à quelques-uns, ces ministères sont des services particuliers dont la nécessité est donc apparente. L'œuvre du salut accomplie à un moment donné de l'histoire, au début de notre ère, vers l'an 30, 29 ou 30, quand le Seigneur Jésus a été crucifié, qu'il est ressuscité, donc l'œuvre du salut accomplie au cours de l'histoire ne se renouvelle pas. Le fondement de l'Église lui-même est posé une fois pour toutes, et il ne peut pas y avoir un autre fondement, nous dit Paul. Mais la construction de l'Église reste à faire. Elle va se poursuivre jusqu'au retour du Christ. Les premiers témoins ayant disparu, les apôtres, l'œuvre ne peut être abandonnée. Et Jésus la confie jusqu'à son retour à des serviteurs. Je rappelle à votre mémoire la parabole des talents. Des talents, en précisant bien que les talents, il s'agit de poids d'argent, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas de dons ou de capacités, de poids d'argent. Eh bien, dans cette parabole-là, le Seigneur nous montre bien qu'il remet ses biens. Nous aurons probablement l'occasion de préciser ce que sont ses biens. Il remet ses biens en quantités différentes, à chacun selon sa capacité, à ses serviteurs, et il s'en va pour longtemps, et il demande à ses serviteurs de faire valoir. Même consigne dans la parabole des mines de Luc 19. Faire valoir les biens du Seigneur, c'est-à-dire faire valoir l'œuvre de rédemption. L'œuvre de rédemption qui va être là, soutenu, porté, utilisé par le Saint-Esprit. Alors cette œuvre de rédemption, il faut la faire valoir jusqu'au retour du Maître. Les ministères de la parole occupent le premier rang. L'Église se nourrit de la parole apostolique, prêchée, expliquée, éclairée, et elle est le véhicule de la vie. Elle est l'objet préparé comme point de convergence de la foi. L'Église et le Seigneur Jésus lui-même, portez vos regards sur lui, le chef et le consommateur de la foi. De plus, il nous est enseigné que l'Église doit être un édifice. D'une part, première comparaison, d'autre part, un corps, et non pas un amas ou un rassemblement inorganisé. Et pourquoi tout à l'heure nous avons insisté sur un corps qui est organisé, minutieusement organisé. Les ministères sont des charges et fonctions qui vont s'exercer, qui doivent s'exercer dans l'Église et sont désignées par le terme grec général de diaconia. Nous allons maintenant nous placer devant une autre partie de l'étude, à savoir devant ce fait que les ministères sont d'institutions divines et non pas humaines. D'une manière générale, Dieu se donne des auxiliaires parmi les hommes. Cela a toujours été la manière de Dieu. Alors, évidemment, il est facile de les nommer Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Josué, les juges, les prophètes, les sacrificateurs, les rois, Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus lui-même, qui dans le prophète Ésaïe est appelé mon élu, mon serviteur, mon compagnon, mon serviteur. Voici mon serviteur que je soutiendrai dans Ésaïe 42:1. Le peuple lui-même, le peuple d'Israël lui-même était désigné comme le serviteur de l'Éternel, mais certains hommes furent nommément désignés et appelés à des rôles précis dans le déroulement du plan de Dieu. À travers l'histoire, le plan de Dieu s'est déroulé. Et il fallait des hommes rendus capables d'accomplir chacun en son temps la part de l'œuvre de Dieu qui lui était assignée. Il y eut des missions isolément confiées à certains auxiliaires de Dieu, des missions qui ne se reproduisent plus, telles que celles d'Abraham, telles que celles de Moïse. On peut toujours retrouver des équivalences, des comparaisons, mais enfin, les missions de ces hommes étaient bien particulières, elles étaient là, placées dans le temps où il fallait qu'elles s'accomplissent. Josué, Jean-Baptiste lui-même. Par contre, d'autres tâches ou fonctions formèrent des catégories, telles que les fonctions de prophète, et nous avons des catégories là, les fonctions de sacrificateurs et les fonctions d'anciens dans le peuple d'Israël, les fonctions d'anciens. Les auxiliaires de Dieu sur la terre sont donc des hommes et ne sont pas des anges. Les anges remplissent certaines missions qui doivent être nécessaires pour le bien de ceux qui doivent hériter le salut, mais les anges n'annoncent pas l'évangile, et deux anges le feront exceptionnellement quand l'Église sera enlevée, cela dans l'Apocalypse. Mais jusque-là, les anges ne participent pas à l'annonce de l'Évangile, à tel point que chez Corneille, l'ange qui est apparu à ce centenier romain et à sa maison n'a pas dit, bien écoutez, moi je vais vous dire ce qu'il faut faire, puisqu'ils étaient en prière, ils cherchaient, n'est-ce pas, c'était magnifique, c'était agréable à Dieu déjà. Il ne leur a pas dit, il leur a dit, voilà, vous allez vous rendre à Jopé, là, je vais vous indiquer l'endroit exactement, vous donner l'adresse, et vous irez chercher Pierre. Vous appellerez Pierre, hein, et c'est Pierre qui, lui, vient annoncer l'Évangile. Toute l'œuvre de rédemption reste donc incluse à la famille humaine. Le principe est celui que nous énonce l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2 et au verset 11, Épître aux Hébreux, chapitre 2 et verset 11, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée ». Ceci est appliqué naturellement, vous le voyez bien, au Seigneur Jésus. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire les hommes, sont tous issus d'un seul, c'est-à-dire d'Adam. Eh bien, ce qui vaut pour le Seigneur ici, vaut d'une manière générale pour les ministères. Il faut que ce soit des hommes de la, des personnes de la famille humaine. Les ministères s'inscrivent dans la continuation de l'œuvre de Jésus-Christ, c'est-à-dire la mise en valeur de l'œuvre de rédemption par quelle j'allais dire miracle, oui, n'ayons pas peur de prononcer le mot, parce que le mot de miracle peut s'étendre, peut être adopté pour désigner une voie. Eh bien, par quel miracle? Par celui de la multiplication, tout simplement, la multiplication. Il faut donc que nous soyons ces pains, ces quelques poissons que les mains du Seigneur ont multipliés. Il faut que ce soit dans la famille humaine que des hommes, eux-mêmes pécheurs repentis, eux-mêmes graciés, soient les porteurs du message de vie qui, lui, a la puissance d'engendrer, et par conséquent, c'est par voie de multiplication. Si le Seigneur Jésus a fait deux multiplications au cours de son ministère terrestre, c'est bien parce que ces ministères nous enseignent précisément la voie de Dieu, la multiplication. Il y avait, à la première multiplication, 12 corbeilles de restes, de morceaux qui restaient, et puis à la seconde, il y en avait 7. Et un jour, le Seigneur dit à ses apôtres, « Combien y avait-il de corbeilles la première fois ?» Alors tous les apôtres, ils avaient bien regardé ça, « Il y en avait 12. » Et la deuxième fois, « Il y en avait 7. » Et le Seigneur de dire, « Avez-vous compris ?» Les apôtres, sur le moment, n'osèrent pas dire « Non, nous n'avons pas compris ah, ». Mais enfin, ils ont compris par la suite. J'espère que vous avez compris aussi, n'est-ce pas? Pourquoi d'abord le 12, ensuite le 7. Et tout cela nous montre que, donc, la multiplication est le principe d'action de Dieu. Il ne va pas créer ex nihilo. Il va créer, multiplier ce qui existe déjà. Il a des disciples, il a des apôtres, il va les multiplier. Et dans le Jean 17, Jésus dira, tous ceux, je ne prie pas pour eux seulement, mes contemporains, je prie pour tous ceux qui croiront par leur parole, la parole qu'ils vont répandre. Donc les tâches que sont les ministères vont être réservées à des hommes pécheurs, repentis, régénérés, remplis du Saint-Esprit et qualifiés par le moyen des dons, ce que nous regarderons d'un peu plus près ultérieurement. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins.